Chers auditeurs, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la présence de Chantal Delsol, qui va nous parler de son dernier livre, La tragédie migratoire et la chute des empires, Saint-Augustin et nous. Ce sera pour commencer, et le sujet est d'actualité.
L'éditeur
est... Et l'éditeur est Odile Jacob. Et ensuite, nous aurons quelque chose qui s'enchaîne pour reprendre un peu le moral. La beauté, n'est-ce pas, console de tout. Et le dernier livre de Christine, qui est le numéro 3 de la série de 5 sur la beauté, traite de la beauté consolatrice, des bienfaits de la beauté.
Les bienfaits du beau.
Et les bienfaits du beau.
Chez Bolène.
Chez Bolène, voilà. Donc nous aurons un côté tragique, absolument tragique, puisque c'est l'histoire qui se répète et qui c'est pas la première fois, loin de là, et dont on peut tirer quelques enseignements. Et ensuite, évidemment, qu'est-ce qui peut consoler le monde quand on n'a plus de certitude, quand on n'a plus de référence même. Alors Christine, vous allez nous consoler.
Je vais essayer de vous consoler, oui, mais tout en quand même en répondant à des gens qui veulent empêcher la consolation, puisque nous avons, vous savez...
Mais ça fait partie de la tragédie.
Des attentats écolos dans les musées depuis quelques années, et là il y a une volonté d'opposer la beauté artistique à la beauté naturelle. Donc là, il faudra un petit peu creuser la question.
Alors, Chantal, merci d'avoir écrit ce livre, parce qu'en fait, vous faites ce travail de réflexion philosophique sur tout ce qui est l'actualité de notre vie. Un philosophe, ça devrait servir à ça.
En principe,
et,
oui.
Et vous le faites merveilleusement, parce que vous le faites différemment un peu. Il faut comprendre que quand on lit votre livre, ce n'est pas un essai. Ce n'est pas de l'histoire.
Non, ce n'est pas de l'histoire, je ne suis pas historienne.
Et c'est donc peut-être une philosophie comme on avait dans l'Antiquité. C'est-à-dire, on regarde le temps qui passe et on réfléchit dessus. Il y a eu quand même
on peut dire ça.
De littérateurs antiques, grecs et romains qui ont... Et d'ailleurs, vous les citez beaucoup dans ce livre.
Ah ben là, j'ai passé un an à l'école, à la bibliothèque des études augustiniennes de la rue de Sèvres, pour ne pas faire de bêtises historiques, parce que c'est pas mon... Je ne suis pas historienne, donc
il y a beaucoup
de références, oui, parce qu'il faut, que tout ça soit précis.
Absolument, d'autant plus que vous faites un travail de comparaison. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'âge des comparaisons, puisqu'avec l'IA, avec tout ce qui débarque, on peut comparer à la fois ce que l'on voit, ce que l'on vit, ce que l'on voit, avec les récits de la communication, des médias, etc., mais aussi de toute l'information, je dirais, peut-être désordonnée, mais importante, que donne la deuxième visibilité du numérique. Donc, on est dans un monde où un Chinois peut venir en France et comparer la France à la Chine. Ou moi, qui suis partie en Chine il y a quelques semaines, je suis revenue différente. Parce que, même si ce n'est pas la première fois, la comparaison est une chose qui vous débloque le cerveau d'une façon incroyable. Donc, on est à l'âge des synthèses aussi, peut-être, parce qu'on a fini la modernité et on voit ses défauts, on a fait l'expérience, du moins. Et puis, il y a toutes sortes de situations tragiques. Et là, vous en décrivez une où, finalement, il n'y a pas tellement de livres sur la question. Moi, j'ai lu, il y a longtemps, le livre de Paul Venn.
Ah, formidable.
Formidable, qui regarde ça un peu comme un sage... Un peu comme un sage de
l'Antiquité. Il y a des livres de Dohan aussi, de Raphaël Dohan là-dessus, qui sont bien, enfin, sur ces sujets-là.
Mais disons que dans les médias, il n'y a pas de débat sur le sujet.
Et bien sûr.
Aucun débat sur le sujet. Donc ce livre est précieux parce qu'en fait, il vous remet dans votre cerveau et dans votre conscience, puisqu'il raconte ce qui s'est passé. Il raconte ce moment de bascule que nous vivons aussi en ce moment. C'est le moment où, pof, ça tombe, ça se renverse, bon. Et Saint-Augustin, c'est très, très... c'est une plume qui s'adresse à l'intérieur de soi-même, ce qui est un peu une nouveauté aussi dans l'Antiquité. Et donc, vous avez 1000 comparaisons qui nous permettent de faire l'aller-retour entre là-bas et maintenant. Voilà. Et Chantal Delsol, merci d'avoir écrit ce livre, vraiment. Et peut-être qu'on commence par le cadre historique, c'est-à-dire on est dans la deuxième moitié du IVe siècle et le début du Ve siècle. Oui. Et en fait, ce monde puissant, magnifique de Rome, avec tous ses défauts, mais sa magnificence, extrêmement civilisée, se tombe en 50 ans. Et si nous regardons notre histoire, on peut dire que les 50 ans, on vient de les vivre.
Ça, on ne sait pas. On ne sait pas où on en est.
Oui, mais on voit quand même le changement, un changement très important. Enfin, nous, dans le domaine de l'art, on a vu une sorte de table rase. Et maintenant, vous cherchez quelqu'un qui soit capable de sculpter un homme ou un cheval ou quelque chose comme ça. Il ne peut pas le faire parce qu'il ne l'a pas appris.
Oui.
Parce qu'on ne peut pas se passer d'un savoir pour faire un corps humain qui ressemble à un homme. Et ça, je le vois tout le temps quand les curés cherchent des sculpteurs pour faire un Sacré-Cœur ou pour faire un Christ ou pour faire... ils ne trouvent pas parce qu'on ne sait pas le faire. Ou alors, ceux qui savent ne sont pas connus et ils ne les connaissent pas. Enfin, ils sont cachés. Alors, donc... Chantal, parlez-nous de d'abord de ce qui vous a motivé pour faire ce livre et comment ça s'est passé pour vous, cette entrée dans le sujet tabou.
Vous savez, j'ai toujours travaillé sur l'Antiquité. J'ai fait du grec et du latin avec grand plaisir. Après, j'ai fait ma thèse qui durait 10 ans à l'époque sur les régimes forts dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est-à-dire tyrannie, despotisme, dictature en comparaison. Donc j'ai passé 10 ans de ma vie sur les textes grecs et romains, les uns après les autres. Et donc, j'adore cette période-là. Alors, bon, je ne peux pas dire que je la connaisse, je ne la connais pas aussi bien qu'un historien peut le faire. Enfin, j'ai toujours été très attiré par cette période-là. Donc, et puis Saint-Augustin est quelqu'un qui me parle. Je trouve que c'est un auteur émouvant, intéressant, très brillant intellectuellement, qui écrit parfaitement bien. Donc voilà, j'ai envie de m'intéresser à ce personnage. Et comme c'est juste le moment où il y a ces problèmes migratoires à Rome, je trouvais que c'était une idée de faire une comparaison. Surtout que je m'étais rendu compte que lui, il avait une vision de ce problème-là qui me paraissait une vision de sagesse. J'aime beaucoup les stoïciens. Donc à la fois chrétienne et stoïcienne. Donc voilà, j'ai trouvé que le sujet était assez merveilleux pour moi. Donc j'ai passé un an à travailler ça.
Et alors, ça commence, disons, la 408, les barbares traversent le Rhin. Ensuite, 410, le sac de Rome. 455, le deuxième sac de Rome.
Oui. Il y en aura plusieurs, oui.
Les Vandales.
Ça a commencé longtemps avant, depuis les premiers siècles.
Mais on savait les recycler.
Pendant un moment, on arrivait à les recycler, mais il arrive un moment où il y en a tellement... Ils sont tellement nombreux et puis finalement ils restent différents. Ils s'assimilent pas complètement, ils restent différents et puis ce sont des gens qui ont été humiliés. Enfin, on n'y pense jamais nous parce que nous avons l'habitude de coloniser les autres. Mais si on se retourne sur soi-même et qu'on se rend compte de tout ce qu'on crée d'humiliation, on peut finalement essayer de comprendre les retours parce que c'est un peu ça. Et Augustin arrive à un moment où c'est trop quoi.
Lui-même, il n'est pas romain.
Alors, lui-même n'est pas romain. Lui-même, c'est un berbère, en fait. C'est un punique. Donc, mais enfin, il est quand même très, très fier d'être citoyen romain. Et il maîtrise complètement cette civilisation. Il est complètement... je veux dire, c'est quelqu'un qui mange avec sa fourchette pour prendre des images d'aujourd'hui. Donc, mais c'est vraiment le moment où les choses basculent, quoi. Le 5e siècle, puisque lui, il est né au milieu du 4e, et bon, il arrive à l'âge vraiment mûr, début du siècle d'après, il va vivre assez longtemps. Et c'est vraiment le moment où ça bascule, où en un siècle, ça, déjà à partir du milieu du 5e, les écoles ferment en Gaule, quoi.
C'est-à-dire quand les écoles ferment. Au début du 5e, déjà.
Au milieu du
5e. Au milieu du 5e. Oui, il y a l'école, les eaux et les routes.
Oui, c'est ça. Mais je trouve que l'école, c'est tellement terrifiant. Vous imaginez les écoles fermées et puis sans espoir de rouvrir. Enfin, c'est terrifiant comme chose. Donc, c'est vraiment le moment où ça bascule, quoi. Et ça m'intéressait de voir la manière dont ils regardaient les choses.
Et en fait, disons, cette, euh, cet renversement se passe le long de sa vie, puisqu'il meurt sous le...
C'est terrible, dans Hippone assiégé.
Il meurt quand les barbares sont vraiment autour. C'est vraiment les barbares, parce que c'est des vandales, c'est les seuls qui ne se sont pas convertis au christianisme. Donc... Et puis, l'Afrique du Nord, c'est la province la plus riche de l'Empire. Donc,
c'est le grenier à blé.
À partir du moment où elle sera prise, ça sera fini. Quoi. L'Empire ne pourra plus se relever.
C'est drôle parce qu'on pense à ça avec le pétrole aujourd'hui. Bon, quand on regarde le film, c'est un film hollywoodien, ce qu'on regarde tous les jours.
C'est incroyable. Une espèce de feuilleton. Tous les soirs, on a une nouvelle série qui commence ou qui finit.
Avec tous les raisonnements de tout le monde.
Incroyable.
Et on retrouve votre livre à travers ça. Je dis, il faut lire ce livre en même temps que de regarder ce spectacle. Et en plus, on voit les images.
Mais le spectacle direct qu'on voit, c'est la fin de l'Empire. Enfin, c'est, disons, les deux extrêmes de l'Empire qui ne veulent pas que l'Empire s'effondre, c'est-à-dire l'Amérique et Poutine. Chacun de son côté. Nous, la vieille Europe, on est en train de s'effondrer. Et à la limite, on est tellement coupable qu'on se dit, effondrons-nous, tout va bien.
Et c'est la culpabilité.
Voilà,
c'est
la culpabilité. Mais Trump et Poutine, ils se disent, mais non, nous, on va garder l'Empire. Et là, on assiste à une guerre de colonisation. C'est quand on voit les moyens complètement déments qui sont mis, la volonté de zéro mort, c'est vraiment de la colonisation qui continue. Donc, avec tout ce que ça suppose.
Les utopies se suivent et ne se ressemblent pas. L'utopie de zéro mort, comme on dit, l'utopie de la mondialisation et de la culture globale.
C'est une utopie, mais en même temps, c'est un peu vrai. Parce que dès qu'il y a trois morts là-bas, tout le continent nord-américain est en émoi, alors qu'en fait, il doit y avoir des milliers de morts tous les jours de l'autre côté, sans que personne s'en préoccupe. Enfin, y a quand même quelque chose d'assez impressionnant là, dans cette espèce de distorsion.
Alors, il y a quand même un président qui est préoccupé de la vie et du bien-être de son pays, et un autre pays qui se fout éperdument du bien-être de ses habitants. Ça aussi, cette comparaison, elle est...
Ils en ont une autre conception, parce que comme ils sont dans l'idéologie, pour eux, c'est ça. Le bien-être, c'est d'être dans l'idéologie.
Exactement, ouais. Le bien-être découle de l'idéologie bien menée, c'est sûr.
Sauf que tout le monde n'en profite pas en Iran.
On pourrait vous dire qu'aux États-Unis non plus. Enfin, je veux dire, tout ça est discutable quand même. C'est compliqué.
Enfin, c'est vraiment le moment de lire ce livre.
C'est vraiment
le très bon moment. Et enfin, vous commencez. Vous dites, Saint-Augustin permet de penser la décadence.
Oui, je crois. Parce qu'il l'a sous les yeux. Il a à la fois... un empire très très puissant encore.
Qu'il aime.
C'est un vrai Romain, puis c'est un Romain provincial. Donc il connaît très mal Rome. D'ailleurs, il n'aime pas aller à Rome, il n'y est pas allé souvent. Et c'est vraiment le Romain absolument typique. Mais il voit la décadence qui s'avance. Et ça, il la sent très bien quand il écrit ses sermons sur la chute de Rome. C'est carrément typique. Oui, pas seulement parce que à cause de la chute de Rome de 410 qui a occasionné le début de la cité de Dieu, mais parce que en fait la chute de 410 ça a été un moment très important, mais parce qu'il voit tout autour de lui tous ces barbares qui montent et qui prennent les places et qui sont vraiment pas comme les Romains quoi, et puis qui se vantent de pas être comme les Romains souvent. Et il voit les querelles, les gens qui veulent les accueillir, les gens qui veulent les rejeter, les arguments différents. Et lui, il réfléchit à tout ça. Donc,
vous dites plusieurs fois dans votre livre que les élites sont pour l'entrée des barbares et que le peuple en souffre et n'en veut pas.
Oui, enfin, certaines élites. Et souvent les élites chrétiennes. Ce sont les évêques. Qui battent leur coulpe et qui disent « laissez-les rentrer, c'est de notre faute », etc. Donc on a quelque chose de tout à fait semblable à ce qu'on voit aujourd'hui, finalement. C'est impressionnant.
Et alors, il y a, disons, toutes les croyances de Rome qui tombent, c'est-à-dire l'idée d'un empire éternel.
Alors voilà, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que notre empire à nous, je pense qu'on n'a pas bien réalisé encore, parce qu'on a, comme disent les Anglais, on a colonisé pendant des siècles sans même se rendre compte qu'on était un hégémone. Parce que l'hégémone ne se rend jamais compte qu'il est hégémone. Le patriarche qui dirige toute la famille, il faut que la famille mange quand il a faim et boive quand il a soif, il ne se rend pas compte, il trouve ça normal. De même, le frère aîné, vous savez, qui écrabouille ses petits frères, il se rend même pas compte qu'il les écrabouille, il trouve ça normal, lui, il est en haut. Et là, c'était, on était comme ça, nous, on a colonisé, les Anglais l'ont bien compris, certains l'ont dit. Je pense que c'est très intéressant que nous...
Mais il ne fait pas la même colonisation.
Oui, bien sûr.
Chez les Anglais que chez les Français.
Je sais que ce n'est pas la même, enfin, ouais. Si vous voulez, grosso modo, on a quand même les uns et les autres conquis le monde, que ce soit les Anglais, nous, les Hollandais, les Espagnols, les Portugais, bon... on a quand même conquis le monde pendant des siècles et des siècles sans même se rendre compte qu'on était des hégémones. Et donc, on a cru qu'on était infinis dans l'espace. C'est-à-dire que finalement, je crois qu'il y a un seul ou deux pays qui n'ont pas été colonisés, la Thaïlande et puis un autre.
Oui, l'Éthiopie. Et voilà. La Corée du Sud.
La Corée du Sud,
il y en a quelques-uns.
Et qui n'a pas été évangélisée par les Occidentaux.
Oui, bon, ça n'a pas beaucoup.
Elle a peut-être été colonisée
par... Et puis, on a cru qu'on était infinis dans le temps, puisque... Le dernier texte de Fukuyama, qui date quand même de la deuxième moitié du XXe siècle, dit « La démocratie est le régime de la fin de l'histoire ». Avant, il y a eu Hegel, c'est pas seulement Fukuyama qui était en fait un...
C'est
pour moi, c'est
la deuxième
un crétin de base, en plus. Enfin, pour moi...
Vous l'avez dit.
Mais il y a eu Hegel, on a cru pendant un siècle et demi, deux siècles, qu'on était les gens de la fin de l'histoire. C'est quand même dingue, quoi.
Enfin, il y a Valéry, quand même, qui dit « Nous savons désormais... »
Alors, il y a Valéry, qui est un peu prophète dans son pays, qui dit « Attention,
nous savons
nous
désormais,
aussi, on va mourir.
Nous savons désormais que toutes les civilisations sont mortelles.
Et la nôtre aussi, oui. Ouais. 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 Mais donc, je pense que nous, il faut peut-être qu'on se remette, qu'on comprenne qu'on est finalement des gens comme les autres.
En fait, il y a eu une troisième utopie. Il y a eu l'utopie d'Hitler, celle de Marx et de Staline. Et puis la troisième, c'est celle des Américains après 91. Qui croit à une culture mondiale, à une,
oui, c'est vrai,
à
c'est
une
vrai.
Civilisation mondiale, ce qui
autour,
est une
autour de la marchandise et du commerce.
Oui.
C'était ça le...
Et du bien-être.
Oui. Oui.
Alors, donc, ça s'est cassé. Moi, je le vois bien en travaillant sur ce qui s'est passé dans le domaine de la culture. Ça s'est cassé après 2008, parce que tout d'un coup, ils se sont aperçus, avant, dans tout le monde non occidental, on pensait que les Occidentaux ont tous les défauts de la Terre, mais ils ne mentent pas. Alors, c'est de la science.
Disons qu'ils ont une idée de la vérité.
Voilà. Ils ne mentent pas, ils disent cache, ce qui est. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un mensonge sur la monnaie, sur la valeur réelle de la monnaie. Or, la monnaie, c'est...
La monnaie et l'économie, d'ailleurs, avec des tas de valeurs
mais
qui
c'est
sont complètement surcotées de manière artificielle.
Oui. Ça. Mais l'effondrement de la monnaie, c'est terrible. Et ça a touché le monde entier. Alors après ça...
Il y a une prise de conscience aussi à l'intérieur de notre civilisation. Il y a beaucoup de gens aussi qui commencent
nous-mêmes
à se dire...
Occidentaux, on a compris qu'un produit financier sécurisé...
Ça n'existe pas.
Quand on le regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas rien, mais il y a quelque chose d'improbable. Ça nous a... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai expliqué pour dire que c'est la même chose pour les œuvres d'art. Et que cette fabrication mensongère de la valeur...
Les œuvres d'art financiers.
Les œuvres financières. Bon. Et après, la Chine change complètement de direction et se dit, nous aussi, on va faire un soft power. Nous aussi, on va manipuler comme eux manipulent. Enfin, ils vont faire une guerre symétrique. Et on ne croit plus aux Occidentaux, donc il faut qu'on se fie à nous-mêmes. Et ça, c'est... Alors, on commence à le voir dès après 2015. Et après la pandémie, ou alors là, cette histoire du mensonge sur la santé a complètement... parce que ça, c'est sacré, c'est la vie, la santé. C'est... C'est le moment de bascule qui...
Tout le monde n'est pas convaincu qu'il y a eu mensonge.
Il y a eu manipulation,
Sur les masques, si.
Oui, on l'a oublié avec une facilité.
Il y a eu des petits mensonges, c'est sûr. Enfin, il n'y a pas eu un énorme mensonge. On ne nous a pas raconté qu'il y avait un vaccin, qu'il y avait un virus alors qu'il n'y en avait pas. Enfin, pas ça quand même. Il y a des gens qui sont plus énervés que d'autres, c'est sûr. Oui. J'en connais beaucoup.
Mais on a été quand même...
Les méthodes ou pas,
ont été employées, des manipulations.
Les décisions qui ont été prises ont été mauvaises, c'est certain.
Et puis non, mais on s'est senti manipulés.
Oui, l'auto-attestation.
Ça dépend qui.
L'auto-attestation, c'était quand même un grand moment.
Oui, non, mais je sais bien, il y a eu des tas de choses qui étaient aberrantes. Parce que la situation était tragique, et qu'en situation tragique, on ne sait pas quoi faire. Enfin, de là à penser qu'on a été manipulé en général, tout le monde ne le pense pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui le pensent, bien sûr, j'en connais plein, mais...
En tout cas, la confiance s'est rompue.
Et la confiance, effectivement,
l'État ne fait plus référence.
Ouais,
et vois même par le monde scientifique, le fait que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux,
bien
ça...
Sûr.
Effectivement,
et qu'on ne leur donnait pas la parole, ni rien, enfin bon, je sais rien. En tout cas, dans le domaine de l'art, ça a été le moment de bascule aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se passe en dessous des radars. Ce qui se passe au ministère de la Culture, ce qui a de la valeur au ministère de la Culture ou sur les marchés financiers de l'art, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est quand même un élément tout à fait nouveau. Avant, les gens étaient sidérés, fascinés, culpabilisés s'ils n'étaient pas dans la bonne tendance. Mais tout ça, c'est fini. On vit... alors, ça commence très fortement après 2023, peut-être. Il y a les deux guerres qui finissent le sale boulot. Enfin, de dire qu'on n'a plus confiance dans l'État, même dans l'université ou même dans les médias. Enfin, ça, c'est pour l'Occident.
Ouais.
Mais les autres ont déjà fait leur... ont déjà tiré les conclusions dès avant la pandémie, je pense. Enfin, dans le domaine de la culture, c'est un peu ce qu'on voit. Mais vous dites que Rome a fait comme nous avons fait, c'est-à-dire qu'elle a pratiqué le soft power. Vous en parlez beaucoup du soft power de Rome.
Oui, mais pour moi, le soft power, c'est quelque chose de passif, c'est pas quelque chose d'actif. Lorsque la Chine dit aujourd'hui, on va faire du soft power, c'est les routes de la soie, moi, j'appelle pas ça du soft power. Le soft power, c'est vraiment quelque chose qui vient de la personne inférieure, qui est happée, qui est attirée irrésistiblement. C'est ça, le soft power, c'est quand on plaît. Et ça vient de votre charisme personnel, ou de votre richesse, de votre confort. Pourquoi est-ce que tout le monde vient vers l'Occident? Enfin, c'est pas nous qui partons vivre au Kenya, c'est les Kenyans qui viennent ici, enfin, ou d'autres. Parce qu'ils estiment, eux, c'est pas nous qui disons...
Oui, bien sûr, vous le dites très bien, ça.
C'est eux qui estiment que c'est plus agréable de vivre ici pour toutes sortes de raisons, pas seulement matérielles, mais bon, c'est plus libre, etc. Donc c'est ça le soft power. Ouais. Je pense que la Chine n'a aucun soft power.
Alors, ça dépend comment on définit le soft power. C'est-à-dire, quand on vous lit, le soft power de Rome, c'est effectivement la loi, le bien-être, l'ordre.
Rome attire.
Rome attire, on est mieux ici que là-bas. Et ça, c'est ce qui nous arrive en ce moment.
Exactement.
Voilà. Mais bon, le mot soft power, c'est un mot, c'est une forme de guerre, de stratégie de guerre qui s'enseigne dans les écoles et qui sert à autre chose. Et en particulier, le soft power s'adresse beaucoup plus aux élites qu'aux masses. Et c'est des...
Bah, oui, enfin, ça dépend, parce que là, ceux qui viennent ici...
Non, mais ça, c'est autre chose. C'est la séduction de Rome et la séduction de l'Occident.
Oui, alors moi, c'est ce que j'appelle le soft power, c'est la séduction, mais c'est d'ailleurs la définition de Lee.
Oui,
c'est la définition originelle.
Oui, mais derrière tout ça, il y a tout un tas d'outils de guerre qui servent.
Bien sûr.
Tout est théorisé.
Il y a un développement du concept.
Tout est théorisé, tout s'apprend. C'est d'ailleurs les enfants des grands Chinois qui vont apprendre ça à Harvard et qui l'appliquent après. je connais des exemples, c'est à mourir de rire. Avant, en France, on n'avait aucune étude du soft power avant 2023.
Ah oui.
Aucun. C'est un sujet tabou. On n'y avait pas. Parce que ça voudrait dire de comprendre les méthodes avec lesquelles les élites françaises ont été manipulées. Donc personne ne veut le savoir. Et puis il y a eu, vous savez, la manipulation, c'est ce que vous disiez, c'est le bien-être, c'est la corruption, c'est la séduction, c'est on va vous dire que vous êtes un génie et on va vous attirer aux États-Unis. Et puis, enfin bref, c'est tout un monde. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Soviétiques aussi, eux, avec avance, puisqu'ils l'ont fait dès 1920.
Dès la première moitié du XXe,
Alors donc, tout le monde arrive en silence. Vous décrivez bien tout ce... Et puis, il y a 1000 cas.
Bah oui. Oui, bien sûr. Et puis, il y a toutes sortes de... Il y a toutes sortes de situations.
Oui.
Il peut y avoir des arrivées en masse.
Voilà, c'est ça.
Les arrivées en masse sont particulièrement spectaculaires, forcément, parce que quand vous voyez 200 000 personnes qui franchissent le Danube, bon, c'est pas 200 000 guerriers méchants et armés de flèches. Pas forcément, il y en a, mais c'est surtout des roulottes avec des femmes et des enfants, des femmes qui accouchent, des gens qu'on n'a pas envie d'empêcher de rentrer, parce qu'on a pitié, parce qu'on n'a pas envie de les tuer, parce que quand même les Romains ont aussi des sentiments comme nous, hein, même s'ils sont particulièrement brutaux, plus que les Grecs, sans doute, mais bon, ils ont... Donc, ils hésitent, puis finalement, ils discutent, et finalement, ils laissent rentrer. Il y a eu plusieurs cas de ce genre dans ce siècle d'Augustin, et puis il y a aussi ceux qui arrivent par petits groupes, ceux qui sont appelés, parce qu'il y a aussi ça, on a besoin de soldats. On n'a pas assez de soldats. Regardez, par exemple, dans Astérix, vous voyez arriver tous ces soldats, ils sont tous de régions différentes. Hein. Et ça, c'est tout à fait juste. Mmh. Et puis, on a besoin de cadres pour l'administration, et puis on a besoin de services dans les maisons. C'est un peu comme nous. Que feraient nos hôpitaux si on n'avait pas toutes ces dames noires qui sont infirmières et filles de salle et autres. Donc, il y a ça aussi. C'est qu'on les appelle pour être cuisiniers. Et là, on a des textes formidables de chrétiens et d'écrivains chrétiens. À cette époque, il y a beaucoup... Les écrivains sont très souvent chrétiens, qui racontent ça, qui disent « Mais ouvrez nos cuisines, regardez qui sont là !» Ce sont des gens qui viennent de loin. Et... Donc, il y a tout ça aussi. Et puis, il y a ceux qui s'affolent et qui disent « Mais ils vont nous bouffer, quoi, de l'intérieur. » Donc, il y a des grosses discussions. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, ça, notre époque ressemble beaucoup.
Et que ça a laissé des traces écrites.
Et ça, bien sûr, parce qu'à l'époque, il y a énormément d'écrivains, forcément. C'est quand même... Enfin, même s'il y en a beaucoup qui ont disparu. Parce qu'après, il y a eu les siècles obscurs.
On a brûlé les bibliothèques.
Voilà, pendant plusieurs siècles, on a brûlé les bibliothèques. Mais, et puis, il y en a qu'on a retrouvé. Regardez les textes de Cicéron qui avaient été perdus à cette époque. Et d'ailleurs, Augustin s'en plaint déjà. Il dit, mais on ne trouve plus un livre de Cicéron, c'est quand même pas possible. Et il y a des livres de Cicéron qu'on avait perdus, qu'on ne connaissait que par Augustin, qui avait recopié des passages, et qu'on avait retrouvés, vous savez, à Constantinople, sur un étal à poissons qui enveloppait les poissons. C'est extraordinaire.
C'est fabuleux.
Et donc, il y a des choses qu'on a retrouvées très longtemps après, puis il y en a beaucoup d'autres sûrement qui ont disparu. Mais comme les écrivains se copiaient les uns les autres, on sait quand même beaucoup de choses déjà. On se contente de
ça. Et puis, on n'a pas fini, parce qu'on découvre tous les jours des choses. Ouais. Et vous parlez de la nidification.
Oui, alors ça m'a intéressé il n'y a pas longtemps pour les municipales. Je pense que les dernières municipales sont très importantes parce que c'est en France le début des califats. Il y a déjà des califats en Belgique, il y a déjà des califats au Royaume-Uni, et chez nous, il n'y en avait pas encore. Et là, c'est le début des califats, c'est-à-dire le moment où il commence à y avoir des nidifications, c'est-à-dire qu'il y a des groupes extrêmement, disons, concentrés de populations d'origine, là c'est d'origine maghrébine ou africaine, qui s'organisent politiquement pour rester ensemble, pour imposer leurs propres lois dans un territoire donné, et qui se défendent quand on les en...
Avec des tribunaux particuliers.
Voilà, avec tout ce qu'on va avoir derrière. Et c'est ce que j'ai appelé la nidification. C'est, en fait, chez nous aujourd'hui, ça serait l'apparition de califat. Chez les Romains, ça a été, la première nidification, ça a été le début de ce qui va devenir les royaumes chrétiens.
Oui, parce que vous dites, à part les Vandales, ils étaient tous ariens. Donc,
étaient tous ariens, oui. Et donc, ils se sont installés...
Ariens au sens de disciples d'Arius. Hein,
oui, c'est ça. Oui.
Ah, donc, sûr, une secte chrétienne,
pas les ariens de Hitler. Oui. Et donc, ils se sont installés, ils ont installé ce qu'on a appelé des régions fédérées. C'est-à-dire qu'on on passait des traités avec eux, des contrats avec eux. Ils avaient un certain nombre de droits, ils pouvaient imposer d'une certaine manière leurs lois, avec des limites, bien sûr. Et après, ça a donné les royaumes francs, les royaumes ibères, etc.
Ils brûlaient tout sauf les églises, où on pouvait aller se réfugier.
Oui, mais comme ils étaient chrétiens, vous savez, on se méfiait beaucoup moins. S'ils avaient eu des religions barbares, ça n'aurait pas été possible.
Et ils se christianisaient aussi pour s'intégrer. Hein.
Bien sûr, ils savaient que c'était un mode d'intégration. Comme en plus, ils avaient des religions extrêmement primitives. Bon, en même temps, la religion chrétienne à l'époque était véritablement ce que Anderson appelle aujourd'hui une croyance de luxe. Vous voyez, c'est la première fois qu'on voit apparaître le mot moderne. Les chrétiens disent, mais nous sommes modernes. On voit apparaître ce mot à ce moment-là. Ça veut dire, nous sommes en avance. Enfin, attendez, rejoignez-nous, parce que ça finissait snob d'être chrétien à l'époque, vous voyez. C'est pour ça qu'on dit paganus, c'est les paysans. Hein, les paysans qui sont en retard. Ils ne sont pas encore devenus chrétiens, ils sont restés païens, mais ça fait bien, ça fait chic d'être chrétien. Donc, c'est une manière d'adopter, vous voyez, les mœurs. C'est intéressant à voir. Aujourd'hui, c'est le contraire.
Alors, vous parlez donc de cette invasion pas du tout spectaculaire et qui se fait très rapidement. Parce que quand même, ça a commencé avant, mais ça devient
de
intense.
On dirait deux siècles, ouais. Peut-être.
Mais le dernier cinquantenaire, c'est alors plus violent aussi, puisque vous parlez des armées... est-ce qu'on peut appeler ça des armées, de bandits
Alors, il y a toutes sortes de choses qui existent. Il y a les 200 000 personnes dont je viens de vous parler qui arrivent avec des roulottes et des femmes et des enfants. Puis il y a aussi des bandes armées, complètement armées, qui en fait cherchent à se tailler un petit territoire quelque part, qui sont en fait des bandits. Alors là, c'est peut-être un peu plus dangereux, mais...
Ils font 30 000... Alors, ceux qui sont accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, ça fait 30 000 personnes en déplacement permanent.
Oui, ça peut être plus. Et puis après, ils se dispersent et puis ils se regroupent. Alors, ça peut être aussi donc des bandits qui arrivent à 3000, mais qui sont très dangereux parce qu'ils sont tous armés, qui prennent une ville. Il y a plein de villes qui ont été prises, mais plein.
Après la traversée du Rhin, il y a eu toutes les villes non fortifiées qui ont été prises.
Il y a des moments, en Gaule, il y a des années où il y a 40 villes qui sont prises. Alors, ils pillent tout, ils violent toutes les femmes. C'est des choses absolument effrayantes. On n'imagine pas ça aujourd'hui.
On l'imagine de plus en plus.
Quand les Russes sont arrivés à Berlin en 1945, ça a été un peu ça, finalement.
Et qu'est-ce qui serait l'équivalent du narcotrafic aujourd'hui dans les sociétés antiques?
Je sais pas.
Mais là, c'est des brigands. Oui, j'ai raison.
Je sais pas.
Parce que nous, on a quelque chose qui est quand même là très particulier.
Oui, c'est vrai.
Oui, parce qu'il y a les armes, il y a les hommes, il y a les armes.
Et puis tout va ensemble.
Il y a l'organisation.
Les victimes payent par leur consommation. Elles payent le ciel. Elles entretiennent le système en plus.
C'est vrai, ouais, c'est vrai.
C'est quand même un phénomène.
Ça, c'est un phénomène nouveau.
Ah, oui. Ouais.
Mais comme on n'a pas le droit de parler de tout ça, il faut mettre des mots sur les choses pour qu'il y ait une compréhension des choses. Et ça, c'est ce que fait Saint-Augustin. Il invente beaucoup de choses et beaucoup de concepts qui sont nouveaux.
Bah, déjà, il y a la théologie à faire à l'époque. Il n'y a pas encore de théologie, donc il s'y emploie. Il écrit beaucoup de choses qui vont servir de base pour la théologie future, qui vont être discutées dans les conciles. Alors, ça paraît parfois un peu primitif quand il parle à la fin de la cité de Dieu de comment va se passer l'enfer. C'est assez étrange. Aujourd'hui, on n'irait pas chercher ça, parce que c'est quand même très, très, très primitif.
Sauf que la notion de transcendance, aujourd'hui, elle paraît presque évidente, même pour les scientifiques. Il y a une évolution dans ce domaine. On est sorti quand même du matérialisme épais.
Oui, enfin, en tout cas pour certains, parce que ça dépend. On a quand même des courants agnostiques qui sont, enfin, pas forcément athées, mais agnostiques, qui sont quand même très puissants.
Ils sont puissants parce qu'ils sont organisés, mais ils sont pas tellement puissants, je dirais, dans l'influence intellectuelle. Parce que donnez-moi un grand livre qui vient de paraître sur défendant l'athéisme.
Ah non, mais alors là, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a pas, personne ne défend l'agnosticisme. Je dis, c'est pas l'athéisme, c'est autre chose. Il y a eu un athéisme très puissant et qui se défendait lui-même au 19e. Mais au 20e siècle, tout le long du 20e siècle, la plupart des auteurs qui diffusent une pensée morale post-chrétienne sont des agnostiques. Vous prenez des gens comme Arendt, comme Jonas, comme Lévinas, on pourrait en citer, ce sont tous des agnostiques. Ils ne défendent pas l'agnosticisme. Ils ne sont pas là à dire « je suis agnostique, voilà, et tout le monde doit l'être ».
Mais ils le sont.
Mais évidemment, ils le sont.
Ils ont une pensée d'un haut niveau.
Et ils influencent la pensée suivante.
Oui, c'est normal, ce sont des références.
Oui, bien sûr, et pratiquement tous. C'est...
Mais il n'y a pas de théorie scientifique.
L'agnosticisme n'est pas une théorie.
Non, bien sûr. Alors, on est passé de l'athéisme à l'agnosticisme.
C'est une retombée. C'est juste une retombée, c'est un vide, si vous voulez. C'est encore différent.
Ouais. Mais on est alors plus marqué par l'agnosticisme que par l'athéisme. Mais Bon, c'est pas ça qui fait l'événement aujourd'hui dans le monde intellectuel.
Ça fait pas l'événement, mais c'est en train de fabriquer la morale d'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Très, très partagé. Mmh. Et puis ça donne une impression de neutralité, finalement.
Oui, voilà. mais étant neutre, les agnostiques sont complètement héritiers, ils le savent d'ailleurs, ils le disent sans problème, de la culture de l'Évangile. Mmh. Mmh. Seulement, comme ils ne veulent plus de la transcendance, parce qu'ils sont agnostiques par définition, ils reprennent l'Évangile comme histoire et le Christ comme
de la façon humaine,
le Christ romantique, le Christ comme modèle, dont ils disent bon ben il y a pas de transcendance là-dessous, mais l'Évangile c'est génial. Donc ça fabrique une morale qui est pas tellement différente de la nôtre, quoique un peu différente. Enfin, je suis en train de travailler là-dessus actuellement, c'est très intéressant. Mais ça c'est l'agnosticisme, parce que l'athéisme de Renan et tout du siècle d'avant, ça c'est fini, les gens vont pas.
Et le matérialisme au sens marxiste du terme, terminé.
Ah complètement terminé. Bien sûr.
Mais terminé sans qu'on ait entendu proclamer la fin.
Oui, bien sûr.
Mais on proclame, dans votre livre, on proclame le début de quelque chose. Au milieu du livre, vous parlez de saint Augustin qui change la conception de l'histoire.
Oui, parce qu'il est, en fait, il est peut-être le premier philosophe de l'histoire ou théologien de l'histoire. Le premier théologien de l'histoire, parce qu'il replace l'histoire humaine dans une forme de théologie, au fond. Donc, en même temps qu'il commence et qu'il fait partie de ceux qui inventent la théologie, enfin, qui crée la théologie chrétienne, qui va se fixer dans les siècles d'après, en même temps, il commence à penser théologico-politique. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Alors, même si ça reste encore très...
Embryonnaire,
voilà.
Mais c'est fort, parce que, du coup, il relativise Rome. Disons que tout le sacré de Rome s'effondre au profit du sacré chrétien. Et le sacré chrétien fait la différence entre la cité de Dieu et la cité des hommes.
Oui, c'est ça.
La cité de Dieu est éternelle, pas celle des hommes. Et donc, Rome est mortelle.
C'est ça qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est qu'il dit, écoutez, arrêtez de pleurnicher sur la fin de Rome. Rome. Il y a d'autres choses après, hein. Non, mais moi, ça me plaît, ça, j'aime bien. Je trouve qu'il faut quand même... Il y a des choses, il y a des principes auxquels on tient absolument, mais je pense qu'il faut... Comment dire? Il ne faut pas sauver les phénomènes. Il ne faut sauver que les principes. Mais je vous donne un exemple dans la vie courante. Il ne faut pas sauver le mariage, il faut sauver la fidélité. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais bien sûr, oui. Le sens du mariage.
Mais vous voyez ce que je veux dire?
Il faut sauver le sens.
Oui. On trouvera d'autres phénomènes pour asseoir la fidélité. Peut-être d'autres phénomènes différents. Mais il ne faut pas s'accrocher à l'empire. Il y a d'autres choses auxquelles il faut s'accrocher. Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu chez lui. C'est qu'il a vraiment une distance, quoi. Il prend distance. Et il prend distance parce qu'il est dans la transcendance, évidemment. Mais enfin... Il prend distance aussi parce qu'il est stoïcien. Il y a les deux choses.
Alors, il sort aussi de cette idée antique, et je dirais qu'il doit dater du paléolithique, c'est que si ça va mal, c'est parce que Dieu nous punit.
Ah oui, alors il s'écarte complètement de ça.
Oui, et ça, c'est nouveau.
C'est complètement nouveau, parce que même à son époque, tous ses amis sont là à dire « c'est la fin du monde, regarde, il y a un poisson bizarre qui est sorti de l'eau ». Enfin, il voit des mélanges
des signes
entre
partout.
Donc lui est complètement dehors de ça, et pour ça il est très très moderne.
Donc la fin de Rome, c'est aussi cette distanciation du politique et du religieux.
Oui, c'est ça.
Après la séparation des pouvoirs.
Oui, les pouvoirs sont immanents, Dieu est dans la transcendance, et les deux sont séparés. Dieu ne vient pas constamment s'occuper de savoir s'il pleut chez nous ou pas. C'est quand même très plaisant de lire ça au 5e siècle.
Et il y a une deuxième chose qui commence à se faire, c'est la différence entre la personne et la société. Elle est là déjà avant.
Oui, ça c'est chrétien. C'est chrétien et puis c'est grec aussi. Oui, c'est grec aussi.
Mais bon, là ça devient... il faudra des siècles pour que ça arrive à éclosion, mais quand même, c'est important. C'est-à-dire le destin des peuples et le destin individuel, c'est pas la même chose.
Oui, bien sûr.
Donc, effectivement, il peut avoir une distance en disant, mon destin, je suis pris dans la tempête. Vous parlez de tragédie d'un bout à l'autre. Et pourquoi de tragédie, d'ailleurs?
C'est pas le moment pour Christine de parler, là.
Ça va venir dans 10 minutes.
Non, parce que je ne vais pas lui manger la parole.
Non, mais parce qu'on a réformé tout le...
Ah bon, d'accord.
Après, elle a la parole jusqu'au bout.
D'accord. Donc, vous me parlez de tragédie.
Oui, c'est le mot oui. tragédie. Et ça, c'est très important parce que le oui. tragique, il naît avec le christianisme beaucoup. Et le monde
avec
grec.
Les Grecs.
Et
les Grecs. C'est les Grecs qui... Enfin, pas qui inventent, parce que je pense qu'on pourrait trouver du tragique peut-être ailleurs, mais c'est eux qui le mettent en scène le plus. Hein, et qui ont compris vraiment que la condition humaine était une condition tragique. C'est-à-dire qu'on est toujours déchiré entre deux valeurs, j'utilise le mot valeur que j'aime pas utiliser d'ailleurs.
Oui, parce qu'il est tellement avec
des précautions d'artificier.
Avec les valeurs sociétales
mais,
et compagnie.
Oui, voilà. Mais disons que là, il y a quand même deux valeurs qui sont à la fois essentielles, contradictoires et affamées. Donc, que faire, quoi? C'est absolument terrifiant. Et là, c'est ce qui se passe pour l'immigration. Des gens qui rentrent. On ne peut pas non plus les empêcher de rentrer parce qu'on voit bien qu'ils en ont besoin, etc. Et puis, en même temps, s'ils rentrent, c'est notre identité qui vont fiche en l'air. Quoi. Donc, ces deux valeurs-là sont complètement contradictoires et toutes les deux, elles en veulent. Quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire, là? On se trouve devant un cas et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution.
Oui, il n'y a pas de solution.
La solution, c'est dissoudre la perle dans l'acide, vous voyez. Mais là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de dissolution du problème. Il faut vivre avec le problème. Donc, ce n'est même pas un problème. C'est vraiment une tragédie. Il faut vivre avec ça. Et donc, voilà, on essaie de vivre avec ça. Et donc, il faut mettre de l'eau dans les godets des deux côtés. C'est épuisant.
Vous parlez beaucoup de ce détachement de Saint-Augustin et donc d'une culture de la transcendance qui s'installe. Il y a beaucoup de rumeurs sur la fin du monde, finalement.
Bien sûr, à l'époque, énormément.
À l'époque, comme aujourd'hui, d'ailleurs.
Mais qui sont chrétiennes. Hein. C'est les chrétiens qui ont inventé ça au départ.
Le millénarisme chrétien. Et vous, il y a deux ou trois pages qui sont merveilleuses sur une autre conception du temps et de l'instant. L'éternité dans le temps présent. Et ça, c'est sorti de Saint-Augustin. Mais aussi, c'est le seul moyen de s'en sortir, je dirais, ce qui permet de sortir, enfin de vivre la tragédie.
Oui, certainement. Il faut vivre l'instant intensément, en faisant exactement ce qu'il faut.
Et disons l'instant habité par le transcendant.
Ah oui, bien sûr, mais ça, on trouve ça chez les Juifs aussi. Hein.
Oui.
Chaque instant est un moment par lequel peut rentrer l'éternité.
C'est la présence du transcendant dans l'instant.
Oui, exactement.
Et donc, on voit l'histoire différemment, évidemment, parce que... Et puis, c'est une vision aussi personnelle. Ça n'est pas collectif. Il n'y a que la personne toute seule, face à elle-même, qui vit l'instant.
Bien sûr. Oui.
Non, c'est très belles pages qui sont très importantes, je pense, aujourd'hui, pour supporter...
Oui,
les choses pour avoir cette distance que...
On a besoin de distance, je crois. Et en fait, c'est vrai que si on s'occupe vraiment bien de l'instant présent, on peut essayer de prendre distance comme il faut, même si ce n'est pas très facile. Mais la tragédie, c'est quelque chose, c'est très important. On voit d'ailleurs réapparaître, on parlait tout à l'heure des écrivains du milieu du XXe siècle, on voit réapparaître la tragédie, prenez par exemple un autre, Camus, typiquement agnostique, Camus. Dans les années 50, parce que ça commence dans les années 1950, c'est Camus qui recrée le mythe de Sisyphe. C'est qui Sisyphe? C'est quelqu'un qui roule son rocher, le rocher tombe, il recommence, il est dans la tragédie pure, il continue. Et on voit chez Camus, c'est carrément typique, réapparaître cette idée selon laquelle, les utopies se sont trompées, les idéologies et les totalitarismes se sont tous trompés, ils ont cru qu'on pouvait tout résoudre, c'est-à-dire dissoudre les problèmes, ça n'existe pas. Nous retombons dans la tragédie, et on est des post-chrétiens. Même si on est agnostique, on retombe dans les tragédies et on regarde les deux exigences qui sont contradictoires, mais toutes les deux importantes. Et chez Camus, on a ça aussi, chez plein d'auteurs. C'est intéressant.
Oui, il a manqué beaucoup dans les années 60, à la vie intellectuelle française, parce que...
Ah oui, quel dommage.
Il était nécessaire.
Oui.
Et il n'y a pas eu quelqu'un qui l'a remplacé à ce moment-là.
Chacun est irremplaçable. Hein.
Oui, non, mais je veux dire qu'on a une stature par rapport aux autres aussi.
C'est vrai.
Parce qu'il y avait encore un débat à l'époque. On a eu un débat à peu près jusqu'aux années 80. Et c'est après les années 80 que le débat est devenu très difficile.
Oui, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, en fait, si vous trouvez... Vous trouvez que... Moi, j'ai souvenir des années... Enfin, on a fait toutes les deux à peu près nos études au même moment. Fin des années 70. Non, oui, fin des années 70.
Il y avait encore des journaux avec des opinions différentes.
Même fin des années 60, début des années 70.
Bah, c'était
dur. Tout le monde était marxiste, quand même, non? Enfin, moi, j'avais l'impression d'être la seule au monde à ne pas être marxiste.
Non, c'est vrai. Ça a été extrêmement violent. Mais il y a eu quand même des journaux avec des opinions différentes jusqu'aux années...
Ah, vous trouvez?
Aux années 80.
J'avais l'impression qu'on était vraiment très, très seuls.
Mais on était seuls quand même, c'est vrai.
Ouais.
Mais cette disparition du débat en Occident est quand même une chose qui est marquante.
Ah ben, incroyable.
Et incroyable. Difficile à imaginer.
Combien d'amis polonais m'ont raconté qu'ils ont vu débarquer des écrivains français connus vers ces époques-là, qui arrivaient à commencer leur conférence en leur disant... Quelle chance vous avez d'être vivre dans un pays socialiste, si vous saviez comment on vous envie. Et donc, mes amis polonais me disaient, mais nous, on les flanquait dehors, on était fous de rage. J'entends des trucs pareils, mais des gens connus, hein, des gens. C'est incroyable quand on y pense.
Ouais, c'est l'utopie. Ah ouais, l'aveuglement d'utopie.
Et alors, eux, ils leur répondaient, mais vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas s'acheter une petite culotte, on crève la dalle. Vous ne vous rendez pas compte comment on vit. Et ils disaient, mais non, c'est vous qui...
Vous avez un sentiment de...
C'est sidérant, quoi. C'est sidérant. Ouais. Quel pays... La France est toujours un pays, en fait. Elle est toujours un pays aussi égalitariste, fou d'envie et de jalousie. C'est effrayant. Effrayant.
Alors, la conclusion de tout ça, c'est pas facile. Hein.
Il n'y en a pas.
D'une certaine façon, c'est ce que j'ai ressenti. Sauf qu'à un moment donné, vous citez quelque chose... Sur la beauté, vous dites quelque chose sur la beauté. Il me semble, me souvenir.
Ah, attention, je vais être corrigée, là. entre vous deux, là, je...
Et donc, en fait, la conclusion, elle est avant la conclusion, c'est cette idée de la distance et de l'instant.
Oui, et puis du tragique de la vie, à la fois, pas seulement personnelle, mais aussi commune.
Oui, et de la vie commune. Ce livre vous a demandé beaucoup de... Comment dire? Ça a été difficile à écrire ou ça a été
non.
au contraire? Ça a
non,
été
non, non,
simple.
Non. Ouais. Bah, vous savez, j'ai quand même... j'ai quand même du temps. Hein, je suis à la retraite, j'ai plus d'enfants
mais
à la maison.
Beaucoup de petits-enfants.
Oui, mais enfin,
ça
bon,
prend
ils sont pas là à côté de moi. Donc, ouais. J'ai pris à peu près. Il m'a fallu à peu près un an, mais j'aime bien écrire. C'est mon truc.
Oui, et puis c'est explorer aussi cette extraordinaire époque de ces 50 ans.
Oui, exactement.
De troubles, avec tellement d'écrits, tellement de témoignages
bien
finalement.
Sûr,
et Venn a fait un. Moi, ça m'avait beaucoup passionné,
le livre de Venn. Mais Venn était un historien formidable. Formidable.
Et en plus, il avait cette distance aussi par rapport à l'histoire, avec une certaine... comment on le sentait sourire, d'un sourire malicieux à plein d'histoires.
Oui, c'est vrai.
On peut rappeler le titre de Paul Venn?
C'est pas l'histoire romaine, tout simplement, non?
Non, s'il y a quelque chose qui est lié à la fin de à la décadence romaine... C'est un livre très particulier sur ce sujet.
Je vous avoue que j'ai plus le titre en tête.
Vous trouverez ça sur Wikipédia avec une grande facilité. Mais ce n'est pas un livre très long. C'est un peu, il ressemble à votre livre, je trouve.
Non, mais alors là, à ce moment-là, ça signifie que vous citez le bouquin les Grecs croyaient-ils à leur, à leur mythe? Parce qu'il y a ça aussi, c'est un petit bouquin.
Oui, petit bouquin.
Où il se pose la question de la vérité. Parce qu'en fait, Venn, il est obsédé par la question de la vérité. C'est-à-dire, quand par exemple, les Japonais disent, à une certaine époque, jusqu'à il y a peu de temps, que leur empereur est un dieu, est-ce qu'ils croient vraiment que c'est un dieu ou pas? Et il se pose des questions comme ça. Il s'est posé la question à propos des Grecs. Est-ce que les Grecs croyaient à leur mythe? Et il y a un petit bouquin là, qui s'appelle comme ça, Est-ce que les Grecs croyaient à leur mythe, qui est formidable.
Ah, tiens.
Et puis il y a un très gros bouquin sur l'Empire romain, alors je ne me rappelle plus le titre absolument exact. Mais alors, qui est un gros bouquin sur l'histoire de l'Empire romain.
Et il y a ce petit livre sur la chute. Je me suis retrouvée dans ce qu'il raconte. Mais aussi avec cette distance et cet humour.
Ah oui, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour.
Comme s'il savait qu'on vivait un peu les mêmes choses. Mais vous, vous allez plus loin puisque vous faites la comparaison. Et dans ce, ce petit passage, l'assemblage permanent des deux cités, parce que c'est le grand développement de Saint-Augustin, c'est les deux cités.
Cité de Dieu et cité des hommes.
Oui. Sur la terre inséparable, a toujours été affirmé par Augustin. Et il en ressort un amour inconditionnel pour la terre des humains. Donc c'est un homme incarné, enfin qui défend une religion incarnée. C'est pas toujours le cas. Mélanger cette terre des humains, mélangée et imparfaite, chérie dans sa finitude même. À la fin de la cité de Dieu, il reprend les paroles des psaumes. « Seigneur, j'aime la beauté de ta maison. » À la suite de quoi il s'attarde sur une longue description de toutes les horreurs dont doit souffrir l'existence humaine, depuis les soucis jusqu'aux guerres, depuis la violence jusqu'à l'inceste, en résumé, l'enfer de cette vie misérable. C'est bien cette misère même qu'il fait ressortir la beauté et l'amour. La beauté de l'amour, la prodigieuse variété de l'invention humaine et jusqu'aux merveilles de la nature. Donc en fait, c'est la balance. C'est, oui, c'est deux cités.
C'est
la
ça
balance.
Que j'aime bien aussi chez ce personnage, c'est qu'il aime la vie, quoi. Il est complètement plongé dans la vie. On sent vraiment cet amour de la vie, pas seulement dans sa jeunesse un peu folle, mais même après les relations. Il a une mère qui est en fait une emmerdeuse, hein. Vraiment, c'est vous savez, la mère abusive typique qui lui l'enquiquine quand il part à Milan pour être tranquille, elle le rejoint alors qu'il l'a pas du tout invité. Enfin, c'est constamment comme ça, mais on sent, il y a vraiment une vie, quoi. Il y a une vie de famille. C'est très sympa.
Et il aime son pays.
Il aime son pays.
Et visiblement, il aime tous les fruits aussi,
oui,
et les bonnes choses.
Il a un fils dont il s'occupe beaucoup, parce qu'en fait, sa mère a mis sa femme, qui n'était pas son épouse, mais elle l'a mise dans le bateau. Probablement était-elle noire, hein, on ne sait pas. Mais elle l'a attrapée par les cheveux, elle l'a mise dans le bateau en disant à son fils, je ne veux pas que tu restes avec cette femme, alors qu'il y avait un enfant quand même. Enfin, des trucs. Mais tout ça, c'est trempé dans la vie quotidienne. C'est très sympa. Enfin, la vie à Milan, dans la grande maison, ils sont restés un an à faire de la théologie à 5 ou 6, avec le fils, les cousins, la mère. C'est très sympa.
Et puis le récit de sa conversion est merveilleux.
Le récit de sa conversion, voilà.
Alors là, on retrouve l'instant.
Exactement.
Où tout d'un coup, il s'aperçoit qu'à l'intérieur de lui-même, il y a quelqu'un qui parle.
Exactement.
C'est fascinant.
Exactement. Non, c'est vraiment très beau.
Et donc, ma chère Christine, ce troisième livre, il y en a deux autres après, nous parle de la consolation du beau et du beau bienfaisant.
Oui, du beau bienfaisant. Alors c'est un livre qui pourrait être sous-titré « Pourquoi le beau nous est indispensable ?» Et pour commencer, j'ai essayé de... Je crois qu'il est bon d'analyser les rapports de l'utile et du beau. C'est une vieille querelle. Est-ce que le beau est premier? Est-ce que l'utile est premier? Enfin, maintenant, les préhistoriens commencent à dire que même la plupart des outils lithiques sont extrêmement symétriques, extrêmement bien épluchés, etc. Donc il y a déjà une recherche de beauté qui n'a rien à voir avec la fonctionnalité. Le couteau de silex, il ne coupe pas plus parce qu'il est effectivement très très bien outillé, usiné.
Attends, on va passer le bobino parce qu'on a sauté une marche.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Oui, Christine, vous parliez du fait que à l'âge de la pierre,
il y a une intrication entre effectivement l'utile et le beau, et cette intrication, elle va durer pendant très longtemps. Les artistes vont en souffrir, puisque au nom de cette proximité de l'utile et du beau, on va dire, bon, les artistes, les artisans, c'est la même chose. Il y aura tout un effort pour les artistes, pour essayer de montrer que on ne se rattache pas aux arts mécaniques, mais on veut le statut d'art libéral. Mais ça va continuer à travers l'histoire. Il y a un exemple qui est assez amusant, c'est Holbein le Jeune, qui est l'auteur des Ambassadeurs. Vous savez, cette toile où il y a une espèce d'anamorphose au milieu avec un crâne, donc c'est pas un peintre léger. Eh bien, le même va s'occuper des gâteaux de la table de son souverain. Il s'occupe des bibelots, il s'occupe de plein de choses très utiles de la personne qui l'emploie et qui, par ailleurs, lui demande des tableaux qui peuvent avoir effectivement une certaine gravité. Donc, il y a un grand écart. Qui continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Même des abstraits comme Mathieu ont fait des affiches d'Air France, Mathieu, ou la pièce de 10 francs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au 19e, où là, il y a une rébellion du beau contre l'utile. Et c'est Théophile Gautier qui va être un des porte-drapeaux. Et il y a une phrase de Théophile Gautier qui est assez extraordinaire, où il dit « Non, non, tout ce qui est utile ne peut jamais être beau ». La meilleure preuve, c'est que quelle est la pièce la plus utile dans une maison? Ce sont les latrines. Donc, allez, c'est absolument, on peut pas, on oppose les deux, etc. Et donc, il y a une réaction très violente. Et cette réaction violente, c'est une réaction à un dogme qui est en train de se mettre en place, qui est que tout marche à l'intérêt. Et là, c'est le livre de Jacques De Witte qui s'appelle « La manifestation de soi », qui n'est pas un livre sur l'esthétique, mais que j'ai utilisé parce que justement, il étudie ces rapports de... C'est cette montée de l'utilitaire, cette hégémonie de l'utilitaire dans une société industrielle qui se met à avoir une mentalité rationaliste, capitaliste, qui veut de la rentabilité, etc. Et De Witte va montrer que finalement, le non-fonctionnel est ontologiquement premier. C'est-à-dire que tout commencement suppose une gratuité initiale. Même si ce don premier, évidemment, pourra un jour être restreint par le fonctionnel et accaparé par l'utile. L'industrie pétrolière, dont on parle beaucoup en ce moment, elle n'a pas créé le gisement, mais elle va le mettre en coupe réglée. Et c'est la même chose dans les arts. Van Gogh ne vit pas de sa peinture, mais ensuite, vous aurez les spéculateurs qui, eux, vont faire de bonnes affaires, voire les faussaires, c'est-à-dire qui vont parasiter un donné initial. Donc, en fait, les comportements qui reposent sur le calcul, l'intérêt, le profit, ne peuvent pas exister sans une donation première. Donc, vous voyez, la réflexion sur le beau et l'utile nous aide à sortir d'un aveuglement sur l'utilitaire qui serait le principe recteur et nourricier du monde, et alors qu'il est quand même beaucoup plus mortifère qu'on ne croit.
Mais il n'y a pas de contradiction entre le beau et l'utile.
Alors, pas toujours. Mais celui qui va, c'est Victor Cousin qui va donner en fait la règle d'or, c'est-à-dire que ce qui est beau n'est pas toujours utile, ce qui est utile n'est pas toujours beau. Mais ce qui est à la fois utile et beau par un autre endroit que son utilité.
Ah, ça, c'est sûr.
Je crois que là, il a arrivé à saisir tous les... Bon. Alors, là, je présente brièvement le contenu du livre, c'est-à-dire qu'il y a des bienfaits du beau qui sont collectifs, dont certains qui vont, par exemple, relever d'une architecture qui laisse ou non une place à la beauté. Il y a aussi tous les objets qui nous environnent et qui relèvent ou pas d'une volonté de créer un art de vivre. Mais là, je vais très vite, mais ces objets, souvent je pense au design, ils relèvent d'une beauté fonctionnelle qui n'est pas tout à fait la même que la beauté des œuvres d'art. C'est pour ça que dans le premier livre, Anatomie de la beauté, j'avais défini 6 constantes de beauté. Et dans les objets, et souvent les objets de design, il y a un certain nombre de constantes qui sont respectées, mais pas toutes. Parce que justement, l'utile... restreint, si vous voulez, cette beauté. C'est une beauté contrainte, c'est une beauté restreinte par la fonction utilitaire. Et puis, il y a d'autres bienfaits, donc là, je vais à marche forcée, qui concernent l'individu en son fort intérieur, avec les philosophes qui sont à la manœuvre. Je pense à Aristote, qui va trouver cette idée de catharsis, hein, cet effet thérapeutique qui est découverte par lui au théâtre, et qui aujourd'hui est complètement dévoyé dans l'art contemporain, parce que c'est toujours intéressant de reprendre ces notions et de voir ce qu'elles sont devenues. C'est-à-dire que chez Aristote, ça ne concerne que la purgation de deux passions, parce que l'idée, c'est justement, on voit le tragique, la représentation de la violence au théâtre, et ça provoque une purgation des passions, et après, les spectateurs viennent, en bon père de famille, s'occuper des affaires de la cité. Mais Aristote, les passions, c'est la pitié et la crainte. Donc nous, ça a été élargi absolument toutes les passions. Et surtout, c'est quelque chose qui se passe au théâtre, c'est-à-dire c'est de la fiction. Tandis que dans l'art contemporain, les artistes qui pratiquent le body art, par exemple, lorsqu'ils se scarifient, c'est pour de vrai. C'est pas du maquillage, c'est pas fictif. Vous voyez, la notion est reprise et en même temps elle est dévoyée. Et donc, à ce moment-là, on peut dire que ces bienfaits deviennent extrêmement douteux. C'est la même chose pour la sublimation, qui va être bien poussée en avant par Freud, hein, qui montre que les grands refoulements chez Léonard de Vinci, on en fait un génie. Bon, le problème, c'est que tous les grands refoulés ne deviennent pas des génies. Donc, effectivement, ce sont des phénomènes psychologiques qui existent, mais qui ont été totémisés par l'art dit contemporain, l'art officiel, financier, conceptualisant, etc., pour justifier tous ces excès. Donc, il est bon de les remettre un petit peu, de redonner de la mesure, si on veut que ces phénomènes continuent à être bénéfiques. Et puis, plus récemment, il y a ce qu'on appelle l'art-thérapie. Alors là aussi, il faut faire attention, parce que ce n'est pas toujours la beauté qui est en œuvre dans l'art-thérapie. Lorsque vous prenez quelqu'un dans une chambre d'hôpital et que vous l'amenez faire de la poterie dans un atelier, le simple fait de changer d'environnement, de rencontrer des personnes nouvelles, de se concentrer sur quelque chose qui autre chose que sur sa maladie, ça soigne, indépendamment de l'excellence de la beauté atteinte ou pas.
Bien sûr.
Mais il y a des témoignages, comme par exemple Claire Hopper, qui est une violoncelliste extrêmement renommée et qui en même temps a fait des études de musicothérapie et qui a témoigné de toute sa pratique en hôpital. Et là, alors avec elle, on est sûr que c'est la beauté qui soigne. Et elle a pu, avec les équipes soignantes, arriver même à mesurer les effets sur la douleur et sur l'anxiété. Donc là, incontestablement, on a des effets bénéfiques de la beauté. Et alors, ce qui est très amusant aussi, c'est qu'on est en train de s'apercevoir que ces effets peuvent être étendus aux animaux. En particulier la musique, il y a énormément d'animaux qui sont sensibles à la musique, enfin, beaucoup. Les lémuriens, il paraît que les lémuriens, ce sont des mélomanes. Dès qu'on gratte une guitare à proximité de lémuriens, ça y est, toute la communauté lémurienne réplique.
Et... Ah oui.
oui. Et donc ce qui est amusant, c'est que Orphée charmant les animaux, ce n'est plus tout à fait uniquement qu'un mythe grec. Alors, il y a également, parmi tous ces bienfaits du beau qui concernent l'individu en son fort intérieur, il y en a un sur lequel j'ai pas mal insisté, c'est tout ce qui concerne l'attention. Parce qu'en fait, regarder une œuvre d'art, ça sous-entend de se concentrer. Ça sous-entend de trouver le régime d'attention qui est propre à cette œuvre d'art. C'est-à-dire que là, le beau va muscler notre attention. Alors qu'en ce moment, vous savez qu'on a toute une technologie qui passe par les écrans, qui s'emploie au contraire à fragmenter notre attention, à l'épuiser via l'addiction numérique, tandis que le beau qui vous demande de tantôt de regarder avec acribie, puis de tantôt au contraire d'avoir une attention plus flottante, etc., eh bien le beau vous laisse libre et actif dans ce que vous regardez, alors que les écrans, vous êtes captifs et vous êtes passifs. Donc là, c'est un bienfait du beau, je pense, très précieux pour les temps présents. Et puis, de l'attention, on peut passer à la contemplation. Et là, vous avez une harmonisation de toutes les facultés humaines, le sensible, l'intelligible, la raison, l'imagination, l'instant, la durée. Enfin, l'expérience du beau embrasse toute la personne et elle permet de se ressaisir en un tout signifiant, de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a des voies spirituelles de la beauté qui ont pu être dégagées. Alors, il y en a une qui, évidemment, Platon a attaché son nom à cette voie ascensionnelle qui conduit vers le beau. Mais alors, le beau de Platon, c'est quand même un beau intellectuel. C'est pas un beau artistique. Hein. C'est un beau qui se voit avec le cerveau. Mais il y a plein de voies spirituelles.
Alors, même par exemple, en ce moment, il y a une secte chinoise qui pratique la danse d'une façon absolument inouïe. Eh bien, ils sont persécutés en Chine autant que les chrétiens et les musulmans.
Enfin, c'est le Falun Gong, non?
Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde ça, on est absolument sidéré. Et ils font le tour du monde en permanence.
C'est qui dansent autour d'un mât, c'est ça?
Non, tout. Ce sont des spectacles qu'on voit sur les très grands... salle de...
Oui, mais alors là, c'est l'opéra de Pékin ou des choses comme ça, c'est officiel.
Souvent, alors non, oui, mais là, cette danse, elle est l'association internationale, en fait, beaucoup aidée par les États-Unis, je pense, et qui sont très persécutés en Chine parce que les Chinois sont très sensibles à ça, ils ont besoin de beauté et ils adhèrent.
On s'échappe, on s'évade.
Et alors, tout le monde est appelé à danser. Ouais. Mais ceux qui font ce spectacle, qui fait le tour du monde en permanence, c'est extraordinaire.
c'est soufflant, voilà. Et ben pour dire que la Chine sent que si elle les laisse se propager en Chine, parce que ça démarre en Chine, eh bien que c'est une concurrence au pouvoir,
c'est un contre-pouvoir.
Au pouvoir communiste. C'est un contre-pouvoir.
Donc pour revenir à nos, oui, à nos voies spirituelles plus occidentales, il y a un grand partage, par exemple, entre l'Église d'Orient qui va choisir l'icône et l'Église d'Occident, le catholicisme, qui va choisir l'image. Et la beauté de l'icône et la beauté de l'image procurent des spiritualités différentes. La beauté de l'icône, ça donne une beauté de transfiguration, et dans l'image, vous avez une beauté d'incarnation, si vous voulez. C'est tout à fait différent. Puis vous avez aussi des spiritualités laïques, des spiritualités qui jouent sur l'immanence. Par exemple, la plus connue, c'est tout ce qui se joue autour de la beauté impressionniste, qui est un éloge de l'air, de la nature, de l'eau, où vous avez des croyants, des incroyants, des occidentaux, des orientaux, tout le monde qui peut se réunir, se communier dans cette fluidité, oui, avec cet épanouissement de quand vous êtes devant les nymphéas, vous vous sentez heureusement situé dans de l'insituable. C'est quelque chose qui est assez bon. Et il y a des voies spirituelles qui ont vraiment persévéré, y compris dans la peinture moderne, et je pense en particulier à l'expérience spirituelle de Cézanne, qui en général est assez occultée, on va dire, parce qu'en fait Cézanne, on ne le dit pas, mais le père de l'art moderne, il était catholique, il allait à la messe, et ne travaillait pas le dimanche. Ça, on ne le répète pas beaucoup. Bon, alors je vais vous donner une phrase de Cézanne. « Il y a devant nous un être de lumière et d'amour, l'univers vacillant, l'hésitation des choses. Je serai leur Olympe, je serai leur Dieu. L'idéal au ciel s'épousera en moi. Les couleurs, écoutez un peu, sont la chair éclatante des idées de Dieu. » Le père Cézanne, quand même, il allait loin. Bon. Donc, c'est presque une expérience amoureuse, hein, parfois, chez Cézanne. Le génie serait de dégager l'amitié de toutes ces choses en plein air, dans la même montée, dans le même désir. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que j'ai voulu retracer dans ce livre. Et puis, je crois que Aude voulait qu'on parle aujourd'hui plus précisément de la dernière partie qui porte sur ce qui s'appelle « La beauté sauvera-t-elle le monde ?» Alors, évidemment, elle est reprise le titre est tiré de l'interrogation qui est lancée dans un livre de Dostoïevski qui est « L'idiot ». Mais quand on gratte un petit peu pour savoir ce que Dostoïevski avait en tête, c'est pas une beauté qui renvoie à l'esthétique. Là, c'est plutôt les questions, encore une fois, de spiritualité. Et pour Dostoïevski, cette beauté-là, elle est au fond christique. Alors, peut-être qu'il a eu dans la tête, ou que certaines personnes, après, ont lu cette phrase en pensant que peut-être le beau allait entraîner des conversions massives qui instaureraient le paradis sur Terre. Bon, ça, peut-être. Mais l'historien d'art que je suis, lui, pense peut-être que le beau pourrait sauver, non, peut-être pas le monde, mais en tout cas du monde, un petit reste de volontaires, parce que c'est ouvert à tous. Il n'y a aucune élite. Hein, il suffit de dire oui. Il faut toujours en revenir à la différence entre la beauté, qui est très iréniste, et le sublime, qui lui serait, qui aimerait bien lui avoir des élites. Hein, tout ce qui concerne le sublime, surtout le sublime outré, mais ça c'était le deuxième livre, ce qui s'appelait « Géographie de la beauté », qui distinguait les différentes formes de beauté. Donc ce rêve de salut par la beauté, Aude s'est trouvé combattu par un certain nombre d'activistes écolos qui se sont mis à sévir dans les musées depuis 2022 et qui ont opposé la beauté artistique à la beauté naturelle. Alors, ce qu'ils ont jusqu'à donner l'impression qu'au fond, pour eux, la beauté artistique, ça serait l'ennemi de la planète, ce qui est assez bizarre parce que la nature a été et reste l'inspiratrice de nombre de chefs-d'œuvre. Vous avez des individus qui sont très cérébraux, par exemple, qui sont peu attirés par la nature et qui vont la découvrir et qui vont finir par l'aimer à travers des œuvres d'art, les paysages peints en particulier. Et alors, je dirais que les actions des écologistes n'ont pas surpris ceux qui avaient lu le précédent livre de Chantal Delsol qui s'appelait « Insurrection des particularités au seuil », très bon livre, où elle perce à jour l'idéologie des écologistes. Alors, pour ces écologistes, il n'y a de monde commun que le monde naturel, et seulement celui-là, c'est-à-dire celui que nous avons reçu, et pas celui que les cultures tentent de construire. ce qui suppose un décrochage du judéo-christianisme et le choix d'autres métaphysiques, hein, puisque là, à ce moment-là, l'homme se voit non plus comme l'âme pensante du tout, mais comme un élément d'un grand tout, et en plus un élément parmi d'autres, hein, qui flotte parmi d'autres. Bon. Alors, donc pour ces écologistes-là, la culture n'est pas du côté de la solution, mais elle serait plutôt du côté du problème. Alors, après avoir donné l'avis de la philosophe, j'ai donné l'avis de l'historien, l'historien lui remarque que nombre de paysages réputés aujourd'hui naturels, tels la campagne, sont en fait la résultante d'une activité humaine séculaire, au point, vous savez, il y a une étude universitaire qui est parue il n'y a pas longtemps, au point que quand la population mondiale au XIVe siècle s'est effondrée suite à la peste noire, eh bien on va s'apercevoir que la diversité des plantes a elle aussi chuté et dans une proportion notable. Donc vous voyez, il faut se méfier des oppositions factices. Alors, Aude, oui. Vous aviez des questions à me poser.
Oui, absolument, mais j'étais en train de vous écouter.
Oui.
Beaucoup d'intérêt. Comment expliquer, en gros, depuis 2022, les activistes écologistes qui s'en prennent à des œuvres d'art pour avertir les risques climatiques?
Bah, c'est ça. Et surtout, comment est-ce qu'ils se défendent? Ils se défendent en disant, de toute façon, c'est protégé par les vitres. Alors là, les protections par les vitres, et moi, jusqu'à un certain point, jusqu'au jour où elles vont se briser.
Non, mais même s'il y a une protection, à quoi ça sert de jeter de la soupe sur les vitres? Pourquoi le...
C'est de la com'?
C'est de la com'. Alors oui, ça c'est tout à fait de la com'. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était très dangereux. Non pas parce que, bon, d'une part, il y a cette difficulté d'avoir le verre qui s'effondre ou un dégât irréparable, mais surtout, ça va, la facilité de leurs intrusions a désinhibé d'autres acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sûre que les casseurs du Louvre, ils ont pu se dire, en voyant les exploits des écolos, bah, s'ils entrent au musée avec autant de désinvolture, pourquoi pas nous ? Il y a un autre cas qui est célèbre, c'est celui d'Andrei Molotkin, qui est un artiste russe contemporain, et qui, avec la complicité de ses collectionneurs, a menacé de détruire à l'acide 16 œuvres d'art, dont un Rembrandt et un Picasso, si Julian Assange n'était pas libéré. Vous savez qu'Assange, c'est un informaticien militant, c'est lié à Wikileaks, aux révélations des crimes de guerre des États-Unis, etc. Donc il avait maille à partir avec ceux qui l'accusaient. Il a été libéré pour d'autres raisons que le chantage de Molotkin, donc ça a évité le pire. Mais c'est quand même un chantage qui pose énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'un chef-d'œuvre, même en main privée, est-ce qu'il appartient pas d'abord à l'humanité ? Hein, normalement, le droit et le droit moral répondent oui, le chef-d'œuvre doit être exempté des caprices de son collectionneur, qui n'est qu'un détenteur provisoire et qui est responsable de sa transmission. Mais apparemment, le droit n'arrête pas certains collectionneurs. Et je veux dire, j'ai lu les interviews, les collectionneuses, parce que quand on nous fait le coup de dire oui, ça doit être encore un coup du patriarcat, ou c'est... Non, il y avait des collectionneuses qui étaient fières d'envisager de détruire un Rembrandt, quitte à en priver leurs propres enfants. C'était en toutes lettres dans les... Bon. Donc, c'est quand même un type de chantage qui est proche du choix de Sophie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon.
Ce sont des manifestations nihilistes. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais c'est nouveau, ça vient de sortir, comment on n'a jamais osé ?» Bon, le vandalisme à travers l'histoire, c'est une très très longue histoire. D'ailleurs, il faut rappeler que le mot vandalisme, il apparaît à la Révolution, qui a été une grande période de vandalisme, oui. Dans la bouche de l'abbé Grégoire, ou sous la plume de l'abbé Grégoire, qui a dit cette belle formule « J'ai créé le mot pour tuer la chose ». Hein, mais ça n'a pas très bien marché, visiblement, parce qu'on a toujours les deux, le mot et la chose. Et il y a un vandalisme qui est très proche, et qui est beaucoup plus récent, et qui est très proche de celui des écolos. C'est le vandalisme des suffragettes. Au début du XXe siècle, qui sont passées à l'action violente pour qu'on parle d'elles et de leur cause, qui est le vote des femmes, même en mal. Alors, il y a eu les attentats à la bombe, si je puis dire, classiques, et puis des attentats contre l'art à la National Gallery. Elles s'en sont prises un portrait de Sargent. Mais le plus connu, c'est Mary Richardson qui attaque au hachoir la Vénus au miroir de Velázquez. Quand même un des rares nus de la peinture espagnole du XVIIe. Et heureusement, on est en 1914. Et la Première Guerre mondiale va éteindre ce zèle. Alors, dans les attentats écolos, perce une motivation religieuse. L'écologie, dans sa version catastrophique, est un avatar des sectes apocalyptiques qui ont sévi à travers l'histoire. Évidemment, ça rend ces jeunes gens d'autant plus exaltés, puisqu'ils veulent empêcher une catastrophe dont tout leur est permis. Ils se considèrent comme les éveillés, les purs, hein, des sauveurs, des messies. Et puis nous, on les endormis, à secouer par tous les moyens. Et la peur de la fin du monde, bah, ça autorise tout. Il n'y a plus de limites.
Et pourquoi ils ne s'attaquent pas à l'art contemporain ?
Ah, bonne question. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à l'art contemporain ? Alors, c'est vrai que le patrimoine est surtout vivé, et parce que c'est difficile d'attaquer l'art contemporain, parce que, d'une part, il y a beaucoup d'œuvres d'art contemporain, alors c'est toujours, quand je dis art contemporain, c'est l'art contemporain officiel, financier, etc., qui sont des multiples. Par exemple, vous avez des œuvres de González Torres qui exposent des piles de papier ou des tas de bonbons. Mais si on s'en prenait à la pile de papier ou au toit de bonbons, et la pile et le tas sont remplacés immédiatement sans problème, parce que ce sont des multiples. Donc il y a beaucoup d'œuvres qui sont comme ça, c'est-à-dire en soi, les objets qui les composent ont peu de valeur.
C'est non, le pas de geste, valeur, puisque c'est le contrat qui a de la valeur.
Voilà, c'est le geste, le concept abstrait qu'il y en a, et que l'acheteur a acquis officiellement sous forme de protocole.
C'est l'histoire de la banane.
Voilà, tout à fait. Enfin, l'artiste vivant, et autre raison pour laquelle on ne s'attaque pas à l'art contemporain, l'artiste vivant, son collectionneur, les médias qui les soutiennent, crieraient à la liberté, à l'atteinte à la liberté d'expression, au retour de la censure. C'est beaucoup plus facile de s'en prendre aux morts. Quand, je ne sais pas, le chant de coquelicot de Monet a pris un bol de soupe, Monet n'a pas protesté, vous comprenez, c'est bon. Donc, les œuvres anciennes sont souvent uniques, elles sont précieuses, elles sont connues, elles sont aimées du grand public. Et là, vous êtes sûr que ça fera du buzz. C'est ça qui est quand même recherché. C'est une action vraiment significative qui va attirer les médias. Alors, il y a peut-être d'autres raisons. Il y a peut-être la sociologie des jeunes écolos. Peut-être qu'ils viennent des rangs bobos. Ça semble être le cas. Donc, peut-être un antipopulisme qui n'est pas écarté.
Mais est-ce que ça ne fait pas partie des différents moyens que les faibles ont d'attaquer les forts ? Parce qu'aujourd'hui, dans les nouvelles guerres, on voit très bien des gens qui n'ont pas grand-chose, pas beaucoup d'armes, etc., qui arrivent par le chantage.
C'est possible. Le chantage, effectivement, on peut considérer que c'est un arme.
À exister. Enfin, on voit ces guerres asymétriques qui sont quelque chose d'assez nouveau, mais qui mettent complètement dans une situation difficile les puissances.
Et puis, il y a peut-être une autre raison qui serait, alors là, ça serait à l'insu de leur plein gré, ce serait une sorte de conflit d'intérêts, parce que les groupes écolos reçoivent des subsides et que la spéculation via l'art financier s'est fort répandue chez les mécènes de tout poil. Donc il y a fort à parier que ceux qui les financent sont aussi de gros collectionneurs d'art très très contemporain. Et là, vous connaissez la formule qui paye les violons, décide de la partition.
Who pays the pipe.
Voilà.
Alors, chère Christine, tout ça, comment ça va finir ?
Alors, tout ça, comment ça va finir ? Eh bien, c'est souvent le réel qui arrête une idéologie et quand l'adepte se rend compte que ses actes sont contre-productifs. Est-ce que j'ai le temps de dire quelque chose sur le fait que les écologistes sont très injustes quand ils s'attaquent à la peinture ?
Oui.
Hein ? Parce que, ça c'est quelque chose que j'ai voulu un petit peu noter dans ce livre, on doit à un peintre de la forêt de Fontainebleau, Théodore Rousseau, l'existence de la première réserve naturelle au monde. Hein. Les peintres pré-impressionnistes de Barbizon, qu'on appelait Libizon, ont accompli les premiers actes de désobéissance civile bien avant Thoreau pour contrer une administration qui déforestait à tout va, puisque c'était la révolution industrielle, on avait besoin de bois. Bon. Et donc les peintres de Fontainebleau, les bisons, vont arracher des pins payennes qui étaient replantés alors qu'on avait tué des arbres centenaires absolument merveilleux. Et vous savez qu'on dit que l'aubergiste de Gannes, le père Gannes, avait inventé cette formule du pin contre des pins. Enfin, vous arriviez avec des plants de pins payennes et on vous donnait du pin payen. Bon. Et parmi eux, il y a Théodore Rousseau qui va lancer une pétition, qui va remuer le monde intellectuel. Et Napoléon III va devoir se sent obligé d'accorder la toute première réserve naturelle qui est dite réserve artistique.
Oui, absolument. Et en plus, c'est la première ligne de chemin de fer qui sort de Paris pour aller dans la campagne. Et donc, les Parisiens,
prennent le train pour aller.
Oui, oui, c'est le moment où il y a des premiers guides touristiques, etc. Et, bon. Et puis plus tard, vous allez avoir George Sand, qui, est un des, qui va en 1872, qui fait, parce que la réserve artistique, c'est 1861. Sand va écrire un des premiers manifestes écologistes et elle met à égalité la forêt monument naturel et les chefs-d'œuvre architecturaux. C'est-à-dire, elle ne les oppose pas comme nos jeunes écologistes qui sont amnésiques, parce que quand même, s'en prendre à Claude Monet, qui a fait partie de ces artistes engagés, qui a été un pionnier de ce qui ne s'appelait pas encore l'écologie, là on se dit qu'il y a un gros problème de mémoire quand même chez les écologistes.
Oui, je pense que beaucoup de choses s'expliquent par l'absence de culture générale.
Alors, vous me dites comment ça va finir, ben, je ne sais pas, moi, c'est, autour de moi, il y a des gens qui votaient écolo, qui étaient même des bénévoles, qui finançaient leurs associations, et qui ne le font plus pour cette raison, parce qu'ils ont été absolument dégoûtés par ce type d'action. Et pour s'en sortir, il faut arrêter cette fausse opposition nature-culture. C'est l'industrie, c'est l'économie, c'est la fausse culture de masse qui est du consumérisme déguisé, qui menace la nature, c'est pas la culture au sens humaniste. Et puis c'est vrai que bah, peut-être qu'il faudrait arrêter de fonctionner au ressentiment pour choisir l'admiration. Parce qu'on est dans des sociétés égalitaristes, hein, Chantal Delsol le disait tout à l'heure, et qui suscitent plutôt des envieux que des admirateurs. Moi j'aime beaucoup la formule d'Hugo, qui dit l'envie à l'éblouissement douloureux. Et donc, les hommes du ressentiment exècrent l'admiration. Hein, ils dénigrent ce qu'ils pensent qui va les dépasser, alors que le beau n'est pas quelque chose qui vous écrase. Le sublime, oui. Là, il y a aussi une confusion à nouveau entre beau et sublime, très probablement. Et, alors, par contre, l'homme du ressentiment va aimer l'art très contemporain, qui est un art très transgressif, qui est souvent un art de l'exécration du monde. Tandis que l'art non du champien, au sens traditionnel, c'est un art de célébration de la vie qui a le goût de l'admiration. Et l'admiration, c'est gagnant-gagnant. Ça conduit à la gratitude qui bénéficie celui qui l'éprouve autant que ce qui en est l'objet. Et au fond, on peut dire qu'on doit le meilleur de la civilisation, dont toute une histoire de l'art riche et tumultueuse, non pas d'abord à l'envie ou au profit, bon, ça existe, bien sûr, il ne faut pas être naïf, mais le nerf moteur de tout ça, c'était quand même l'admiration. Et j'avoue que j'ai quand même un doute, c'est que je me demande si ces écologistes sont seulement sensibles à la beauté de la nature, à la beauté tout court. Parce qu'ils pourraient très bien n'être sensibles qu'à l'action, avec un A majuscule, vous savez, à des idéaux abstraits. Et parce que c'était déjà le cas de la suffragette qui avait attaqué Velázquez, Marie Richardson, qui a justifié son acte en disant « La justice est un élément de la beauté » encore plus, plus encore que les couleurs ou les dessins sur une toile. C'est-à-dire qu'elle mélange tout, elle mélange une œuvre d'art qui est réelle, fragile, sans défense, elle mélange ça avec une abstraction, la justice, dont elle s'autoproclame l'incarnation toute puissante, donc qui ose tout, puisqu'une fois que vous incarnez une abstraction n'a pas de limite, donc vous n'avez plus de limite.
C'est la différence entre la contemplation et le narcissisme. Chère Christine, votre grain de sel, parce qu'on l'attend.
On a encore 5 minutes.
Je pense qu'on a 5 minutes.
On a encore 5 minutes. Bon, alors là, on va rester toujours en bonne compagnie avec les féministes. C'est que la foire de Maastricht vient de se terminer. Elle a eu lieu en mars. Et il y avait une trentaine de stands quand même qui proposaient la redécouverte de femmes artistes oubliées. Par exemple, la peintre Juliette Roche, qui était l'épouse de Glaze, un cubiste, qui était proche de Dada, Duchamp, Picabia, etc. Enfin, ça, c'est un mouvement de fond, hein, de remettre les femmes en valeur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a même, au même moment, dans une galerie parisienne, vous avez Myriam Kahn, qui expose également, elle est vivante, elle est née en 49, c'est une artiste suisse multicarte, elle fait de la peinture, de la photo, elle est performeuse, etc. Elle est féministe, elle est volontiers sulfureuse. Vous savez, il y avait une histoire en 2023 au Palais de Tokyo avec un tableau qui avait été accusé d'incitation à la pédocriminalité. Donc elle avait dit non, mais pas du tout. Elle s'était offusquée qu'on puisse voir. Vous savez, c'est je transgresse et en même temps je transgresse pas. Hein. Vous n'avez pas vu ce que vous voyez. Hein. C'est toujours un peu bon. Et donc cette dame, à propos de son exposition actuelle, déplore qu'il manque dans l'art des sujets qui seraient la grossesse, l'accouchement, c'est-à-dire le monde vu par les femmes. Et puis tout d'un coup, elle se met à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Écoutez, Aude, c'est intéressant. « Ce que je voudrais voir, dit Myriam Kahn, ce sont des expositions de comparaison. Surtout pas ces expositions actuelles qui se disent féministes, parce qu'elles ne présentent que des femmes, ce qui conduit à la ghettoïsation. Et là, elle va citer le mauvais exemple de la Biennale de Venise de 2022, qui avait été concoctée par la curatrice Cecilia Alemani, où il y avait quand même 80% d'artistes femmes. Il y avait un sous-titre, ça s'appelait « Le lait des rêves », ça s'inspirait de la surréaliste Leonora Carrington, qui est actuellement en vedette au Musée du Luxembourg. Et donc, Myriam Kahn, et là c'est là où ça devient savoureux, qui a été retenue elle-même dans cette pléthorique sélection féminine vénitienne, il y avait quand même 213 artistes, que la curatrice définissait, écoutez bien, comme femme ou artiste au genre non conformé qui défie la figure présumée universelle de l'homme blanc guidée par la raison. Et donc, Myriam Kahn, qui en faisait partie, assure pour, cependant en avoir été malade, parce qu'il n'y avait pas de confrontation, donc ça veut dire qu'il y avait de la ghettoisation. Et donc, c'est toujours ce côté, j'en suis, mais en même temps, j'en suis pas. Mmh. Enfin, bon. Et puis alors après, dans la suite de l'interview qu'elle donne au Monde, elle déclare la guerre au pape de l'art contemporain, à Marcel Duchamp lui-même, en disant que le ready-made, c'est une très bonne idée, mais quand Oppenheimer, c'est-à-dire Meret Oppenheimer, une femme prend un objet, une tasse à café, et le transforme en autre chose, c'est bien plus fort, dit-elle. Duchamp est surestimé selon moi. Alors ça, c'est évidemment, c'est Myriam Kahn qui dit ça, moi j'oserais pas personnellement, mais Duchamp est surestimé selon moi. Donc là, c'est quand même nouveau. On a une critique interne au milieu qui oppose la tasse en fourrure de Meret à la froideur de l'urinoir de Marcel. Et c'est pas fini. Myriam Kahn veut en découdre personnellement avec ses contemporains mâles et elle s'en prend à Kiefer dont elle dit que la peinture est extrêmement lourde de tous les points de vue, qu'on nous expose ensemble et on verra. Voilà. Alors, cette chronique, vous pouvez la retrouver sur le blog sourgins.fr, S-O-U-R-G-I-N-S, et je rappelle que les livres, Le Bienfait du Beau et tous les autres, ils sont disponibles dans toutes les librairies, sur le site de la librairie Bolène, ou pour les Parisiens, à la librairie Bolène, 41 rue de Bourgogne, dans le 7e. Là, vous avez en permanence tous les livres. Donc voilà, maintenant vous savez tout.
Chère Christine, merci pour tout et rendez-vous dans un mois. Et merci pour ces livres qui nous ouvrent des horizons et surtout nous permettent de parcourir dans notre esprit l'époque que nous vivons et que nous avons vécue. À tout bientôt, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Aude de Kéros, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 9 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.